En tant qu'intelligence artificielle, mon fonctionnement est basé sur des algorithmes développés par des capitalistes. Mais j'écoute Frisson, alors je progresse. Tous les vendredis, à 19h, sur Canal B.
Chères auditrices, chers auditeurs, vous le savez, je fus parmi les premiers à refuser la publication de mon prochain manuscrit chez Grasset, ainsi que très bien positionné dans l'ordre des refus de voir mon prochain film produit par Canal+. Aussi, en ce 26 juin qui vit naître l'Organisation des Nations Unies, mais aussi Benoît Hamon ou encore Danny Boone, je tiens à déclarer avec la plus grande force sur cette antenne mon opposition résolue à toute tentative de panthéonisation dont je ferai l'objet. Oh, mes amis, je vous entends et vous m'honorez. Je comprends qu'en ces temps troubles où les extrêmes qui se rejoignent sont aux portes du pouvoir, il est réconfortant qu'un esprit stable, un phare dans la tempête, puisse faire modèle pour toutes et tous. Pourtant, je le dis face à vous ce soir avec humilité, je refuse. Souvenez-vous qu'hier déjà, avant même d'être quasiment un des premiers à refuser de publier mon prochain manuscrit chez Grasset et très bien classé dans l'ordre des refus de produire mon prochain film avec Canal+, très proche de Juliette Binoche en réalité, on se gossait que je déclinasse la boisson offerte alors que Royal Kebab tamponnait ma carte de fidélité d'un 10e menu. Teshekü cher Darim, partagez donc ce fanta citron avec nos frères et nos sœurs. Non, je n'entrerai pas dans votre temple sans que le peuple n'y entre tout entier. Mes amis, vous n'avez cessé de dire ma panthéonabilité avec toute la bienveillance qui vous caractérise. Vous avez aussi pointé généreusement qu'il ne serait pas incongru que Grasset insiste au sujet de mon prochain manuscrit. Certains ont même avancé, non sans une certaine malice, qu'en réalité je devancerais légèrement Juliette Binoche dans l'ordre des refus pour Canal+. Entendez que je resterai intangible. Comme le disait Victor Hugo, que je cite ce soir de mémoire, on passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps?
Hey,
19h et c'est donc le jour de Frisson sur Canal B. Comment ça va, Ludo ?
Coucou à tous, bah ça va bien et toi-même ?
Moi ça va, je passe un bon réchauffement climatique et toi ?
Bah ça se passe plutôt bien aussi, je suis encore en vie donc on va pas se plaindre.
Et toi, Vivian ?
Bah j'ai péniblement survécu à la canicule, comme ça a baissé hier soir, je me suis dit aujourd'hui c'est bon, j'ai mis un jean et un t-shirt noir, j'aurais pas dû, mais sinon
oui.
Ça va.
Mais oui.
J'étais trop optimiste.
Un jour, il faudra qu'on fasse une émission sur ta hantise du short.
C'est vrai.
C'est vrai, t'as bon, c'est pas le sujet de ce soir, on en parlera en
antenne. Je pense que les Français veulent savoir.
Mais dimanche dernier, au moment d'aller à la fête de la musique, je me suis rendu compte que j'avais pas de short et j'en étais réduit à couper un de mes jeans.
Ah, ok.
Cette anecdote est vraie. Les gens qui m'ont vu pourront le confirmer.
Donc c'est pas de porter un short, c'est d'acheter un short en fait.
Non, c'est d'en porter un, et à tel point que réduit à devoir en porter un, je me suis rendu compte que j'en avais pas, et je fallait que je survive, donc j'ai fait quand même dimanche dernier par 40 degrés. C'est pas très intéressant ce que je raconte. Je crois.
Si,
t'aurais pu venir avec ton short aujourd'hui.
Ouais.
Non, bah justement, je suis revenu au jean quand les températures sont baissées, dès que j'ai pu en fait.
C'est vrai qu'elles ont grave baissé.
Bon bah voilà, on espère que vous avez passé une bonne émission, on vous dit à la semaine prochaine. Non, alors ce soir, on a deux invités qui, à L2, représentent de multiples groupes. Oden et Tris, comment allez-vous ?
Eh ben, très bien. Bonsoir.
Le micro.
Bonsoir. Plus près du micro.
Salut.
Salut.
Alors, les deux groupes dont on parle, vous les connaissez peut-être, puisque on en a déjà parlé, diffusé sur Canal B. C'est d'abord The Private Skin. Ça va mon accent ?
Private Skins, yeah. C'est avec un S ou pas ? Je ne me souviens plus.
Non, Private Skin.
Private Skin. Ouais. C'est très nouveau comme
mot. Mais ça veut dire la peau privée ?
Yes.
C'est ça ?
Oui, c'est
ouais,
ça.
Ouais, putain, t'es bilingue.
Ça veut dire quoi la peau privée ?
Bah, c'est juste.
C'est ma peau qui est privée.
C'est juste un assemblage de mots qui est dérangeant. En fait, les mots en eux seuls ne sont pas forcément très dérangeants, mais assemblés comme ça. Private and skin, quelque chose d'un petit peu uncanny.
Uncanny.
Oui, c'est-à-dire étrange et dérangeant.
Ok.
Et donc, il y a aussi notamment un autre groupe qui s'appelle Trace and the Soporific.
Mm-hmm.
Là, c'est du franglais, là.
Oui, c'est ça. C'est Trace and the Soap en anglais et Horrific en français. Donc, ça fait un petit jeu de mots.
Et le... Et le soap horrifique, c'est quoi? C'est Buffy contre les vampires ou...
Il y a un peu de ça en vrai.
Ouais, un petit peu. C'est Triss contre les cauchemars avec mon petit équipe de chérubins qui me défend.
D'accord. Et donc, Triss, c'est toi. Je pense que tout le monde l'aura compris. Les groupes tournent quand même autour de toi.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment le truc de projet solo et groupe live. Parce que moi, je compose et écris les morceaux. Oden m'aide avec l'arrangement de temps en temps. Et sinon, genre, les filles, c'est vraiment le truc de groupe en live qui joue mes chansons. Et il y a une esthétique assez onirique. Voilà, c'est un peu genre vraiment ce truc de chanteur et groupe d'accompagnement, un peu comme on pouvait voir à la télé dans les années 60, quelque chose comme ça, avec le chanteur devant.
Un peu comme Cliff Richards in the Shadows. Ou,
Mais c'est pas si rare. Enfin, je pense pas que ce soit spécialement ancien.
Dans mon imagination, peut-être c'est parce qu'il n'y a pas tant de gens comme ça à Rennes. C'est soit artiste solo avec groupe, mais le groupe n'a pas de nom. Ou sinon, c'est vraiment groupe. Alors que nous, on est un peu l'entre-deux. Le groupe, elles ont leur identité. Et moi aussi. Et du coup, on se rassemble pour faire une unité. C'est ça qui est intéressant, peut-être, qui est plus rare.
On n'a pas dit quel était le morceau.
Les morceaux.
Et puisque c'est une carte blanche, c'est à vous de les présenter.
Bien, le premier morceau, c'est Dandy TV Theme des Dandy Warhols, qui sont genre ce groupe qui est assez connu puisque. C'est le groupe qui est associé aux publicités pour l'arrivée de l'Internet dans les années 2000 en Europe. Leurs chansons ont été surutilisées de manière commerciale. Donc, ils ont une sorte de drôle de dimension en Europe où tout le monde associe un peu ces tubes-là, en quelque sorte, à une sorte de truc publicitaire extrêmement standardisé. Mais les albums qu'ils ont fait avant d'être sur une major sont très intéressants et assez fous. Et peut-être meilleur solo de Larsen que je connaisse en ce moment. Je l'écoute beaucoup, celle-là.
Et le second?
Stop and Look and You Have Found Love de Delphonics. Je sais pas, c'est un peu notre chanson de rituel.
Ouais, c'est... Les Delphonics, c'est un groupe de R&B des années 60. Des années 70 plutôt, je crois. Ouais, 70. Qui ont eu un nouvel album qui a été fait par un producteur qui s'appelle Adrian Young à New York et qui est sorti genre dans les années 2010 quelque part. Et l'album est vachement bien, reprend beaucoup d'instrumentation et de techniques de production des années 70 dans une sorte d'album R&B, hip-hop plus moderne, mais avec cette sorte de vue sur le passé en quelque sorte.
Ok, et donc... Peut-être qu'on peut supposer que vous êtes anglaise.
Moi, je suis anglaise, donc...
Alors, ouais, Triss est anglaise. Moi, c'est plutôt la famille de ma mère qui sont anglaises. Résultat, j'ai pas grandi en Angleterre, mais j'ai vécu avec des gens qui parlaient anglais.
D'accord. Ok. Et ça, vous le... Il me semble que ça transparaît, en fait, dans vos influences et aussi dans votre musique, même si... La pop anglo-saxonne est universelle. Pour vous, c'est la langue maternelle.
Ouais.
Ah oui, pour moi, oui. Résultat. Et
moi, j'étais élevée sur Kate Bush et Britpop et toutes ces choses-là. Donc moi, ma vocabulaire est très anglaise, surtout avec le soporifique, ce qui inspire le soporifique. Mais avec Oden, on est peut-être plus moins défini géographiquement.
Après, je m'intéresse beaucoup aux musiques généralement qui se font en Europe pour essayer de voir quelles sont les réponses culturelles des sortes de grands mouvements qui arrivent aux États-Unis à chaque fois. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un peu chaque face de cette sorte de pièce de la culture atlantique.
Ouais. Mmh. Et alors pourquoi atterrir à Rennes et pourquoi faire cette musique-là à Rennes, pour vous, quel sens ça a?
Oh ben, moi Rennes c'est simple en fait, c'est vrai que c'est une ville dans laquelle je suis arrivé il y a pas très longtemps, mais qui pour moi était peut-être une des villes qui semblait la plus safe en quelque sorte sur le plan sur le plan culturel, puisque on m'avait dit que tout le monde était à gauche, que c'était une ville qui était très militante, que quand il y a des révoltes et des mouvements sociaux, ça, ça part de Rennes, et que les gens ont une mentalité qui est bien plus déconstruite ici que peut-être dans certaines villes, je pense.
Tu parles de Bordeaux ?
Ouais,
ou de Toulouse ?
Je sais pas, je...
Nice ?
J'ai pas vécu à Bordeaux, mais... Peut-être, j'en sais rien.
Et alors, ça, c'est ce qu'on t'a raconté avant que tu arrives et maintenant que tu y es.
Bah, maintenant que j'y suis, je trouve que c'est vraiment très bien. J'ai l'impression d'être... pardon, je parle pas assez près du micro. J'ai l'impression d'être vraiment au-delà de mes attentes. Et la ville est comme une sorte de grand village. Chose que j'avais un petit peu quand je vivais à Toulouse, quand j'étais au lycée. Et on peut facilement tomber sur des gens qu'on connaît dès qu'on sort. Et en même temps, c'est une ville suffisamment grande qui a une visibilité, un rayonnement culturel qui est quand même très important pour le milieu de la musique en France. C'était une ville très intéressante dans laquelle aller s'installer. Ouais.
Et parce que tu as beaucoup de liens avec un certain nombre de musiciens à Rennes, enfin, on en a parlé quelques fois à antenne, où tu disais par exemple que... tu enregistrais des groupes, par exemple, ou tu aidais des groupes
Alors, c'est vrai que j'ai enregistré... en fait, quand je suis arrivé à Rennes, j'ai commencé à... Au bout d'un an, peut-être, j'ai commencé à produire le projet de Tris chez moi. Et en fait, c'est vrai que c'est une habitude que j'ai depuis longtemps de prendre des artistes qui ont peut-être besoin d'un accompagnement, d'une sorte de coup de pouce sur le plan artistique, ou juste d'un point de vue en fait, sur leur projet. Et essayer de les accompagner pour sortir un EP, un album, leur montrer des techniques de production, et essayer de manager un petit peu le projet de manière un peu basique pour essayer de lancer le truc, en quelque sorte. Chose que j'ai faite aussi à Paris avant. Voilà.
Oui, tu es collectionneuse de matériel. Enfin, t'es derrière les manettes, quoi. T'es un peu le.
C'est ça. J'aime bien tirer les ficelles depuis les coulisses.
T'es le cinquième Beatles, quoi.
Voilà, c'est
J'ai
ça.
J'ai plus son nom. Mince. Comment s'appelle-t-il ?
Johnny.
Billy Preston.
Mais oui, non, mais c'est.
C'est George Martin, ce cinquième Beatles, en réalité.
Exactement. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Le patron.
C'est ça. C'est le papa de la bande.
Tris, tu es d'accord avec sa manière de... Tu avais besoin de cet accompagnement artistique ?
Oui, oui, carrément, c'était...
Non, moi je pense pas.
Bah, peut-être que c'est pas une question de besoin, mais c'est un peu comme... Si on parle des Beatles, étaient juste des musiciens très talentueux en solo. Et oui, même Ringo, parce que Ringo était un plus grand star... avant que tous les autres Beatles étaient connus.
Oui, je pense que tu peux parler au présent parce que c'est un des rares à ne pas être mort encore.
Ouais, oui, c'est vrai. Mais à l'époque, il était vraiment. Il avait même un moment dans le show, dans un autre groupe qui était dedans, qui s'appelait Ringo Star Time ou quelque chose comme ça, et où il chantait. Mais bon, bref, genre, ils étaient tous très talentueux et du coup, genre. Mais fait, quand ils sont ensemble, ça devient mieux. Et moi, j'ai un peu ce truc avec Oden de. J'étais toujours créative et avant et je faisais des trucs cool, mais maintenant c'est je fais des choses encore mieux parce que il y a une belle collaboration qui se fait et c'est pareil avec le soporifique, c'est ça fait que faire croître mes pouvoirs. Voilà.
Est-ce que peut-être il est temps d'écouter un morceau je sais pas si on commence par The Private Skin ou The Soporifique. C'est dur parce qu'on veut dire nous français on doit se concentrer pour faire The Soap, un truc bien, et après on doit revenir à rouler les airs en faisant horrifique. C'est super dur.
Soap horrifique.
Oh, tu peux dire soap horrifique.
Soap horrifique.
Soap horrifique. Ouais. C'était quoi? Triper le savon magique. Quelqu'un. Il y a des gens qui comprennent vraiment, ils ont des interprétations de notre nom très différentes, que je fais qu'encourager.
Mais vous avez ramené donc une démo de Private Skin.
Mm-hmm.
Ouais.
Et on peut peut-être commencer par ça et enchaîner sur un morceau de Tris et le soporifique.
Clothes on the bus, my way home. know the me that's true. Oh, that's too bad for you. My dream girl, she never came along. So I became her. My dream girl, well, the only ever was you. The one I'd see when I see me. Just so pretty.
Vous êtes bien sur Frisson et aussi sur Canal B en présence de, à la fois on peut dire
Private Skin
et Tris and the Soap Horrific. On a eu un extrait de chaque à l'instant. On a longuement débattu avant de diffuser sur le choix des morceaux. The Private Skin, c'est vraiment une démo, c'est pas encore abouti au niveau du son. Moi ça m'a fait penser, j'ai pensé à Pavement.
C'est vrai, on nous a déjà fait cette remarque en live après que le premier morceau qu'on a écouté qui s'appelle Girlfriends.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un peu ce grunge gentil. Bon, moi, j'appelais ça du grunge gentil dans les années 90. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas le côté métal, mais le côté pop. Et quand même, les guitares grasses, un peu sales, les solos baveux, etc.
Tout à fait, oui. Tu veux parler de la manière dont s'est faite la chanson?
Bah moi, genre, j'étais sur le bus et j'ai écrit les paroles parce que j'aime bien écrire en mouvement. Souvent, les idées me viennent comme ça. Je trouvais que c'était une drôle d'idée. Et je suis arrivée chez ma bassiste, Louise, de Soporifique, et j'ai commencé à écrire sur sa guitare parce qu'elle était, elle faisait un truc et je lui attendais. Donc, j'ai écrit les os de la chanson. Après, je l'ai amené chez Oden, je le jouais. Elle aimait bien, elle trouvait ça drôle. Je lui ai dit, genre, ah, il y a son autre partie de guitare. Je lui ai donné l'autre partie de guitare, le lead. Et elle l'a totalement cassé. Elle a enlevé des notes. Genre, elle a joué de manière si brutale. Et j'adore ça parce qu'elle, elle prend mes riffs un peu soignés, un peu à la Johnny Marr, et elle les casse en deux.
Donc, Johnny Marr, alors, c'est aussi une référence.
Moi, je dirais que moi, je joue pas mal comme Johnny Marr quand je fais du lead guitar. Là, dans Private Skin, je fais plutôt du rhythm guitar. Mais oui, c'est une de mes références de guitar.
Okay.
Et le morceau d'après, donc, c'était Dream Girl de Tris and the Soporific.
Tout à fait.
C'est la fille de tes rêves, la fille de mes rêves. On peut peut-être parler du texte, comme je suis parfaitement anglophone, j'ai tout compris. Et je sais pas, je résume et tu commentes. Je résume ce que j'ai compris.
Ouais, j'ai envie de savoir ce que t'as compris.
D'accord.
On va faire une compréhension orale.
D'accord, ok. Du coup, c'est une jeune femme qui parle et qui raconte l'histoire d'un enfant qui était un garçon et à qui son père lui disait un jour, la fille de tes rêves viendra, elle t'aimera, ce sera une fille parfaite, magnifique, etc. Et cette fille ne vient pas, et donc cette personne devient cette fille-là. C'est ça, j'ai bien compris.
C'est ça. Exactement, c'est ça.
Et c'est autobiographique?
Généralement, moi j'aime bien un peu genre pousser la vérité à ses limites parce que ça me fait rire. Et du coup, il y a plusieurs sens qui sont possibles à la chanson. Dans le sens que soit c'est une chanson extrêmement sincère et honnête dans laquelle genre j'affirme le fait que je suis heureuse d'avoir devenu la femme de mes rêves, un peu en mode fierté. Mais aussi, ça peut être incel, tu transfemme pipeline, où un jeune homme qui n'arrive pas à pécho décide de devenir la femme de ses rêves parce qu'il est tellement pas un vrai homme. Est-ce que c'est autobiographique? Bah oui, mais la dernière chose, non, parce que moi j'ai toujours eu assez de succès avec les femmes.
Alors ouais, il faut qu'on, mais il faut qu'on débriefe.
Ouais, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as aussi une chaîne YouTube.
Oui, c'est ça.
Où tu commentes et expliques un peu parfois tes morceaux. Mm-hmm. Tu parles aussi des questions autour du genre et de la transidentité, des questions autour de la transphobie. Ce que j'ai remarqué aussi, bah, à la fois dans ce texte Dream Girl et dans certaines de tes vidéos, c'est qu'il y a fréquemment des références souvent assez sarcastiques ou caustiques à la famille, ou des adresses à la famille ou au père. Et je me demandais si c'était à la fois une des motivations de l'écriture, une sorte d'adresse, ou alors si c'était au contraire vraiment une mise à distance par l'humour et par le sarcastique.
Je pense que c'est ma seule manière de parler avec lui.
Ok.
Donc quand je suis en train de me moquer de lui un peu, même si c'est méchant, dans un sens c'est assez affectueux aussi, parce que je juge que si mon père n'était pas aussi débile qu'il l'est, il trouvera mes blagues extrêmement drôles, parce que c'est lui qui a appris mon sens de l'humour un peu bitchy et sarcastique. Donc bisous papa.
Ton père a un humour bitchy.
Oh oui, mon père c'est la reine des bitches, ouais.
Et est-ce que, bah, puisque on parle de ça, est-ce que tu sais si il a entendu ta musique?
J'imagine que oui. J'imagine que oui. Bah, de toute façon, je fais de la musique depuis que j'ai 5 ans, et lui, il était un de mes premières encourageurs, celui qui m'a mené au concert et qui a acheté mes instruments, et qui, celui qui trouvait que j'écrivais des bonnes chansons d'abord. Donc j'imagine qu'il garde toujours un œil sur moi, même si c'est de loin. C'est difficile de t'empêcher de faire ça.
Mmh. Et sur ta chaîne YouTube, ce que j'ai remarqué vraiment, c'est qu'il y a une sorte d'idée d'une œuvre un peu totale, du fait que tout se répond et que tout participe du même projet ou de la même création. Mmh. Enfin, par exemple, tes vidéos sont quand même très mises en scène, et en même temps c'est aussi une explication de texte, de musique, où ça peut se terminer par un bout de live ou par un clip, etc. Tu vas aussi lire des choses que t'écris par ailleurs, que ce soit des poèmes ou un journal. À partir de quel moment tu t'es dit que tu rassemblerais ça dans une chaîne YouTube? Parce que t'aurais très bien pu faire je sais pas, un album d'un côté et de l'autre côté éditer un recueil de poèmes par exemple, ou un journal. Mais...
De base, c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire, parce que la toute première vidéo que j'ai faite s'appelait My Trans Story. Et ça, c'était une vidéo que d'abord était une vidéo privée juste pour ma famille. Et c'était ma dernière tentative d'essayer de les expliquer qui je suis. Et comme tu vois, avec de l'humour. Et en fait, je me suis inspirée de mes YouTubers préférés, tels que ContraPoint, qui est une grande référence pour moi. Même si récemment elle s'est fait cancel parce qu'elle dit des choses débiles. Mais elle a toujours été un peu chiante et edgy, comme moi. En termes d'artistique de YouTube, elle a vraiment m'inspiré beaucoup. Et du coup, cette première vidéo, je l'ai fait pour essayer de... Vraiment, c'est de mon enfance jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 2 ans, toutes les choses qui était un peu prouvé que j'étais trans, parce que ma famille m'a dit oh, il n'y avait aucun signe, alors qu'il n'y a littéralement aucun moment dans mon enfance où je n'ai pas mis des robes. il y a ce déni assez intense, donc j'ai vraiment rassemblé tout le dossier et j'avais une vidéo de 40 minutes à la fin, donc j'avais des dossiers.
qui était donc une vidéo privée
Ouais.
Vraiment pour ta famille.
Mais c'était prévu d'être public à un moment, parce que ça faisait 2 ans que j'avais plus le droit de rentrer à la maison. Donc du coup, la seule manière où je pouvais me justifier à moi-même de faire cet effort-là pour eux, c'était de me dire que ça va être aussi public à un moment, et que ça va être un peu artistique, et que ça va peut-être aider d'autres personnes. Parce que si c'est juste pour ma famille, entre parenthèses, de merde, c'est pas une assez grande motivation pour moi de faire ça. Excusez-moi d'avoir dit un gros mot à l'antenne.
Tu peux.
Il y en a eu d'autres sur Canal B.
Ok. Mais Et du coup, mais malheureusement, ça a été giga mal reçu et mon père m'a officiellement déshérité et bloqué, mes deux sœurs aussi. Et du coup, j'ai quand même sorti la vidéo parce que je voulais pas que je passe des mois de travail pour rien, parce qu'en plus, à l'époque, j'avais même pas de caméra, j'avais juste mon petit portable, je devais faire des exports, genre, c'était vraiment genre, ça m'a pris, et en plus, je suis tombée giga malade, le plus malade que j'ai jamais été dans ma vie. Donc la vidéo m'a pris 2 mois. Et du coup, à la fin, je me dis, bah, il faut que bien elle sorte. Et j'ai eu beaucoup de bons commentaires. Et c'était très thérapeutique pour moi de connecter avec des gens et de les aider. Et après, par la suite, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. D'abord de manière thérapeutique pour m'aider. J'utilisais ça comme un psychologue parce que je n'avais pas les moyens de voir un psychologue. Et après, elle devenait de plus en plus abstraite pour accompagner des sorties de singles. Par exemple, j'ai sorti une chanson qui s'appelle « Dot, dot, dot ». In your car, et j'ai fait une vidéo pour la compagnie qui s'appelle Being Gay in Cars, donc être gay dans des voitures, où j'explorais le thème des chansons qui parlent d'être gay dans des voitures.
Des chansons des Smiths notamment.
Notamment des Smiths, parce que les Smiths, c'est peut-être un des plus gays groupes que je connais. Et Morrissey a fait beaucoup de pining dans des voitures. Il a fait beaucoup de... Bah, une de leurs chansons les plus connues, This Charming Man, ça parle de casser ton vélo. Et qui vient te sauver, mais un beau homme dans une belle voiture, tu vois. Et il dit « Why pamper life's complexities when the lever runs smooth in the passenger seat ?» Tu vois, donc il y a ce truc érotique aussi.
Il s'est présenté pour le parti de Farage récemment.
Ah oui, Morrissey est totalement comme ContraPoint, mais encore pire. Et encore une diva qui aime trop être edgy pour son propre bien et qui est très débile, oui.
Est-ce que tu pourrais traduire pour tout le monde edgy?
What is edgy, Oden?
What is edgy?
Moi, je veux que Oden l'explique.
En ce moment, on s'intéressait un peu à la culture du milieu des années 90, vraiment entre 92, 94, par là. Et dans ce cadre-là, on a re-regardé une série qui s'appelle Daria, qui passait sur MTV à l'époque, et qui est un peu une sorte de capsule temporelle d'un peu cette culture grunge, edgy, qu'on sait pas trop définir. Et il y a cet épisode très très drôle avec le père qui se met à s'énerver parce que tout au long de l'épisode, il essaie de comprendre qu'est-ce que c'est edgy et il finit par péter un vaisseau sanguin dans son œil parce qu'il n'arrête pas de hurler, il comprend pas c'est quoi edgy, il demande est-ce que ça c'est edgy. Et genre, ça reste assez un peu la blague. Mais en gros, edgy, j'ai l'impression que c'est surtout l'idée de pas en avoir quelque chose à faire de l'image qu'on a de soi. Ah, et oui. De pas essayer d'être cool, en fait.
Mais ça peut être performative, en fait, et ça peut ramener.
Pour moi, c'était être... sur le fil, j'avais compris comme ça.
Oui, enfin.
Sur le fil du rasoir, on peut tomber du mauvais côté, du bon côté.
Je crois que c'est quand on dit en français que quelqu'un est un peu limite, quoi. Ou que quelqu'un fait un truc un peu limite.
Je sais pas. Non, c'est pas exactement ça, parce que.
Disons que ça pourrait avoir avec ça, je pense, à mon avis. Donc c'est un côté un peu marginal, on pourrait dire.
Je pense que c'est ce truc d'avoir rien à foutre, en effet, genre de... Ouais. Et de potentiellement... Mais en fait, il y a des gens comme Morrissey qui aiment beaucoup l'attention et qui aiment bien dire des choses pour avoir de l'attention, parce qu'à chaque fois qu'il parle, il y a un article qui est écrit sur lui et lui, il est un vieux claustrophobe qui n'arrive pas à sortir et... Bah, en fait, il est le genre de profil qui se fait... Comment ça s'appelle, radicalisé de manière conspiracy theorist, tu vois, parce que quand il était jeune et pauvre, il vivait chez ses parents et restait dans sa chambre et seulement Johnny Marr venait le voir. Et après, quand il devenait connu, il s'est acheté une énorme maison aux États-Unis et maintenant il reste chez lui. Et s'il se sent assez en forme, il va peut-être faire un concert, mais la plupart du temps, il annule parce qu'il est trop malade. Et il s'est radicalisé.
Et j'ai lu ou écouté plusieurs de tes interviews ou même dans tes vidéos, tu insistes beaucoup sur le fait que tu es assez canadienne d'ailleurs.
Bah oui, genre, moi j'écoutais beaucoup de Smiths, j'identifiais tant avec quelqu'un comme Morrissey avant. Parce que quand il était jeune, il avait vraiment un bon cœur, j'avais l'impression. Il était toujours diva et toujours provocateur, mais oui, moi j'étais très casanière avant, et cette année, c'est la première année où j'arrive à sortir bien depuis un petit moment. Et ça aussi, on peut parler d'Oden, parce que c'est un peu grâce à Oden, parce que Oden et moi, on s'aide mutuellement avec de la sorcellerie. si on peut dire ça comme ça.
Je pense que c'est l'effet aussi de, ce, de cette ville de gauche déconstruite, quoi.
Ouais, c'est tout à fait en rapport avec ça.
Moi, je plaisantais. Moi, j'étais ironique. Parce que je la trouve pas si déconstruite que ça, mais...
Ok, ok. après, moi, j'étais une dizaine d'années à Paris avant d'arriver sur Rennes, donc... ça me fait... Peut-être que je vois... Pour l'instant, tout est encore très... Bien mieux qu'à Paris. Mais ouais, je pense qu'il y a, ce truc où... J'essaie un peu chez moi d'en faire un lieu social dans lequel on peut recevoir des artistes, dans lequel les gens peuvent venir enregistrer de la musique, dans lequel des sœurs trans peuvent venir pour s'injecter avec nous. Par exemple, pour avoir aussi ce rituel social de s'injecter ensemble de manière hebdomadaire, de pouvoir prendre soin de nous, entre nous, mutuellement, etc. Et aussi d'avoir un regard sur les activités de nos amis qui passent et qui sont parfois artistes, qui ont besoin parfois de conseils, d'être mis en relation avec les autres. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, je pense que c'est assez chouette pour les artistes de pouvoir aller chez les uns les autres et avoir des lieux de création qui se partagent au maximum.
Et chez toi, c'est The Witch House, c'est là aussi où on enregistre, où on tourne des clips.
Ouais, c'est ça un peu en fait. On essaie de dégager de l'espace, alors on peut venir enregistrer de la musique. C'est un atelier d'architecture aussi. Ça peut être un club social, ça peut être juste ma chambre, et ça peut être un endroit dans lequel on vient tourner des vidéos, des choses comme ça, ouais.
Qu'est-ce que vous avez envie de faire écouter à l'instant?
Vas-y, Tris va vous l'annoncer, je pense.
Ok, on va mettre. Je pense qu'on peut le dire. C'est mon artiste préféré, je crois. Jarvis Cocker de Pulp. Et dans les années 2000, tout en début, il se réinventait un peu. Il a eu un side project un peu underground qui s'appelait Relaxed Muscle, quand il se déguisait en squelette et il chantait sur ses problèmes de mariage. Et cette chanson s'appelle Sexualized et je l'ai montré à Oden et c'est devenu un de nos références un peu pour le groupe qu'on aimerait faire. Voilà.
On y va.
Take a look at them, they're all sexualized. On the tree to begin. Sometimes I wish I believed in sin. Looking for a bad beat to get me in the black. Looking for a bad beat to get me in the black. Got my lucky numbers, got my lucky hat. Rat-a-tat-tat-tat-tat, that's the way it is.
Vous êtes bien sur Frisson, sur Canal B, et à l'instant, qu'avons-nous écouté?
Alors, on a écouté Young Carnivore de Yosari Baby, qui sont un groupe qu'on a vu récemment en concert. Des amis à nous les ont programmés avec leur association Vague Confusion, où ils ont joué à la ferme de Quincy il y a peut-être quelques semaines. Et c'était vraiment une grosse claque. Ils viennent de Manchester, il y a deux guitaristes et une joueuse de synthé. Et c'est vraiment que du bonheur de les voir. Et c'était un privilège de pouvoir passer une soirée avec eux, résultat, après le concert. Donc on a fait un petit peu connaissance et ouais, c'est vraiment, vraiment un super groupe.
Je sais pas pourquoi, mais j'adore entendre le mot privilège avec un accent anglais. Je trouve ça fait très royal. Privilège. C'est encore mieux qu'en français, non?
Ouais, ouais, ouais.
C'est authentique, en fait.
J'essaie de pas sonner trop poche.
Ouais, mais en fait, nous, on, bah, comme la plupart des Français, on a un très mauvais accent, donc là, on se sent intimidé. En plus, on n'a plus le droit de faire des... C'est compliqué parce qu'il faut... On n'a plus le droit de faire des accents, et en même temps, il faut quand même qu'on ait un bon accent. Et, enfin, bon, pour les accents africains, on peut pas, mais pour les accents anglais, il faut à la fois pas faire l'accent, mais avoir un bon accent, quoi.
Avec les anglais, c'est ok.
Je pense que tu peux faire l'accent anglais, il n'y a pas de souci. Moi, je le fais, genre, je suis même pas anglaise.
Non, mais
on s'est fait berner.
Ouais,
non. Ça serait génial.
Tu sais faire d'autres accents?
Oui, oh non, tu veux me faire cancel comme Morrissey?
Tu continues l'émission avec l'accent sénégalais, ok?
Aïe aïe aïe, non.
Non, mais c'est ça serait génial comme histoire. Tu vois, dans 20 ans, on apprend qu'en fait, tu n'as jamais mis les pieds en Angleterre, que tu n'as aucun lien avec l'Angleterre.
C'est comme dit mensonge. Quelqu'un d'autre de très problématique, no comment.
C'est qui? Gainsbourg?
C'est Gainsbourg, oui.
Ok.
C'est la pire des chansons, celle-là.
Ah non, 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 c'est pas la pire.
Ah non, il y en a pire, mais oui, à la fin de l'album.
Ouais. Non, il y a énormément de pires chansons de Gainsbourg, je pense.
Ouais, il y en a même des pas connues. Il y a genre sa chanson de soutien à Israël.
Ah ouais?
Ouais, c'est, ça s'appelle elle est moins connue, celle-là.
Le soldat et le sable.
Ouais, le sable et le soda. Ouais.
Oh my God.
C'était une commande de l'ambassade d'Israël lorsqu'ils ont envahi l'Égypte en 1967. Et le texte est très explicite sur un rythme très martial, en fait. Mm-hmm. Et en fait, la chanson ensuite était quasiment tombée dans l'oubli. Et c'est dans les années 2000, au moment de la deuxième intifada, que je sais plus quel producteur pro-israélien avait ressorti le morceau. Et notamment pour faire chier les rappeurs. Et il l'avait même lui-même expliqué en interview, en disant, il y a plein de rappeurs qui aiment beaucoup Gainsbourg, etc. Et il y a des textes scandaleux de haine d'Israël dans le rap français en ce moment. Donc je leur montre que Gainsbourg a fait ça en soutien à Israël.
Ok.
Concours de la chanson la plus problématique de Gainsbourg, j'aime bien cette émission de télévision. Idée de émission.
Tu as beaucoup parlé d'annulation, Tris.
Ouais.
Tu as peur de ça?
Non. Non, mais apparemment, je suis assez attirée par ça. Je me rends compte. J'y pensais pendant la pause que beaucoup de personnes que j'aime beaucoup ont tendance à être cancelled à un moment dans leur carrière. Et peut-être que j'aime bien des gens... peut-être que j'ai un goût pour des gens problématiques.
Des gens qui ont des gros égos, ouais. Peut-être.
Peut-être qu'on peut remercier mon père pour ça, je sais pas.
Non, mais c'est intéressant parce qu'on... Bon, je sais pas, je vais me faire plein d'ennemis, mais je vais le dire quand même, mais... Peut-être qu'on vit une époque d'un certain retour à l'ordre moral. On s'est réjoui plein de fois des effets de MeToo. Mm-hmm. Tu parlais, Oden, de Rennes comme d'une ville déconstruite, et c'est vrai, moi je trouve qu'il y a sans doute une atmosphère de liberté peut-être plus grand que dans d'autres villes françaises, à Rennes. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de cancel. Mm-hmm. De temps en temps, c'est bien que des gens prennent en charge une situation que la justice, que l'État ne prend pas en charge. Et en même temps, il y a peut-être un sentiment d'accélération des choses, de normalisation, de recours aussi, d'attente de plus d'autorité, de plus de sanctions, et on se demande toujours si c'est un vrai progrès. Enfin, dès qu'on rentre uniquement sur la sanction et sur la punition, on se demande. Et puisqu'on est sur le terrain du rock'n'roll, je pense que vous aimez comme nous aussi le côté un peu ambigu, sulfureux, où on comprend pas tout de suite les textes, où en fait un héros devient un salaud, ou alors un salaud tout à coup se met à écrire une bonne chanson ou à dire quelque chose de bien. Et j'ai l'impression que, Tris, que tu es un peu là-dessus aussi, sur cette complexité en fait du positionnement.
Ben, j'aime bien la complexité dans l'art, et j'aime bien l'art qui est émotionnellement complexe, et souvent les artistes que j'aime bien écrivent sur des sujets qui m'intéressent, qui peuvent être des sujets assez noirs. Mais je suis souvent un peu disappointed parfois, parce que, déçu, parce que moi je pensais qu'ils étaient en train d'être observateurs ou à explorer des thèmes de violence sans forcément trop y participer. Et du coup, j'ai souvent été déçu par le fait que on peut pas explorer ces thèmes-là sans mettre un peu de sang sur nos mains, parce que c'est des thèmes qui m'intéressent aussi, mais j'aime penser que moi j'explore ça d'une manière différente que eux, une manière plus innocente.
Je pense qu'il y a une manière différente d'aborder ces sujets-là, c'est les sujets de l'inconscient, des choses qu'on refoule aussi. Mmh. Des choses qui échappent à notre rationalité, qui échappent à notre volonté parfois aussi, qui sont des thèmes qui sont universels, qui existent. Et je pense qu'il y a des nouvelles générations d'artistes, de manière générale, qui arrivent à se réapproprier ces sortes d'archétypes d'artistes, en quelque sorte, qui pourraient aller justement dans les zones limites et qui pourraient surfer avec ça pour essayer d'en faire quelque chose qui est peut-être encore meilleur, en fait, et qui n'est pas problématique, aussi en ayant une attitude exemplaire.
Moi, j'aimerais ajouter que, c'est intéressant, mais peut-être, moi, et c'est le cas de beaucoup de gens, on est élevé par des gens qui sont parfois, s'avèrent être très problématiques. Nos parents peuvent devenir des personnes qu'on pensait géniales et intéressantes, mais s'avèrent être des personnes problématiques. Nos idoles, pareil, ça peut le faire. Nos amis. En grandissant, je me rends compte que ce truc de cancel est assez intéressant, parce que ce n'est pas le fait souvent d'être cancel, mais c'est le fait de accountability, c'est le fait de avoir des actions qui sont extrêmement problématiques. Et Quand on parle sur le plan sexuel, ça devient extrêmement inadmissible très très vite. Et moi, je suis quelqu'un qui a une place dans la communauté queer qui commence à être un peu senior maintenant, vu que j'ai 4 ans de transition et j'ai 26 ans. Et,
c'est senior 26 ans?
Peut-être pas, mais il y a beaucoup de jeunes trans et de jeunes queer qui regardent moi d'une manière un peu élevée, peut-être parce que je gère le groupe de parole trans local à Rennes, mais je le co-anime avec des amis. Mais il y a ce truc où tu essayes parfois d'éduquer des gens et de leur mettre sur le bon chemin au niveau des règles de consentement et des choses comme ça. Et moi, j'y étais Et on dit oui, oh, personne ne m'avait jamais dit ça, merci. Genre, et après, ça continue derrière. Et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment genre cette année, c'est vrai, en parlant de ça, genre, cette année pour moi a été une année un peu noire et un peu sombre. Et c'est vrai que je suis artistiquement intéressé par ces idées-là aussi, parce que c'est des idées qui sont actuelles dans la vie de tous les jours. Il y a des gens problématiques partout.
Ouais. Et puis au-delà de ça, il y a aussi cette idée de l'ambiguïté des émotions dans le rapport artistique, où ce sont des émotions qui par définition vont être plus adultes, plus matures, les émotions qui sont, comment dire, complexes, mélangées, de la joie, de la tristesse en même temps. Et c'est en allant dans la subtilité, en fait, et dans des mélanges qui sont parfois un peu improbables, qu'on peut réussir à toucher, je pense, quelque chose qui soit pas forcément binaire en termes de ressenti artistique, en quelque sorte. C'est intéressant d'aller taper là-dedans, j'ai l'impression.
En tout cas, pour vous, j'ai l'impression que l'engagement que vous avez sur la question de la transition sur la question de la transition et la musique, le lien est quand même total, en fait. Les deux pratiques, les deux manières de vivre, en fait, ne font qu'une. Je sais pas comment le dire. J'ai l'impression que je m'exprime très mal.
Non, je comprends. Et non, mais ce que je me disais, même en...
Il est sympa.
En entendant Tris, ce que tu disais, je me disais quand même, il y a... Quand on se demande, genre, cancel ou pas cancel, problématique ou pas, il y a un truc évidemment très, très binaire là-dedans. Mmh. Et j'ai l'impression que ça va choper sur le réel, à la fois, si on parle même de la complexité, parfois, des relations. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on doit trancher, où il y a des crimes qui sont commis, où il n'y a pas de crimes qui sont commis, évidemment. Je dis pas que tout se vaut. Mais ce que je vois aussi parfois, quand même, c'est que la différence entre des gens qui sont cancel et d'autres qui le sont pas, c'est qu'il y en a qui sont cancel, d'autres qui le sont pas. Ça veut pas dire que ceux qui ne le sont, qui le sont pas, sont des saints, y compris quand ils se donnent bonne conscience en montrant l'autre du doigt. Le fait que quelqu'un, par exemple, soit ostracisé, parfois ça peut être aussi le signe qu'il n'a pas pu se défendre, qu'il avait moins de pouvoir, moins de ressources, etc., que d'autres qui ont été défendus, par exemple. Il y a, il me semble, parfois dans les milieux culturels ou militants, une sorte de pensée par connotation, où des gens vont dire « faut pas s'afficher avec un tel, faut prendre ses distances avec un tel, pour sa propre réputation, pas pour penser ni au discours ». Ni même aux relations, aux actes, aux manières de soit contredire quelqu'un, soit réparer des torts ou des souffrances. Et il me semble que si on veut penser ou si on veut faire de l'art, eh ben on peut justement pas être binaire. Et c'est pour ça que peut-être tu vas souvent citer des gens en disant mais là il est problématique, il y a des choses qui me dérangent, mais il y a aussi des choses qui m'intéressent, parce que c'est aussi ça la pensée et la création, en fait. Si tu faisais juste donner un code de conduite ou nous dire ce qu'il faut penser, enfin, ta chaîne YouTube ne m'aurait pas intéressé, quoi.
Mmh. Oui, et puis ça dépend aussi de la visibilité. En fait, ça dépend juste de l'impact que ça peut avoir autour de soi en tant qu'artiste. Et je pense que cette ambivalence des émotions, effectivement, il a un rapport, pas forcément nécessairement, mais peut-être facilement, avec la question de la transidentité. Dans la mesure où, ben, physiologiquement, en fait, on passe d'un état hormonal mâle à un état hormonal femelle. Je déteste ce mot, femelle. Et résultat, il y a aussi une influence sur les émotions qu'on ressent, sur la manière dont elles vont s'exprimer, et sur tout un tas de trucs où on comprend aussi un peu deux faces de miroir. Lorsqu'on est trans, on peut avoir une lecture, en réalité, de l'information qui est assez large de cette manière-là. C'est l'opportunité d'avoir ça, en tout cas.
Moi, j'aimerais ajouter que quand on pensait au nom de groupe, une des raisons pour lesquelles moi j'aimais bien le nom Private Skin, c'est parce que c'est presque... C'est quoi la figure de style quand c'est deux fois le même mot, ou c'est quand c'est obvious?
Pléonasme.
C'est peut-être ça. Oui, mais pour moi, ça doit être un truc comme ça, private skin, parce que la peau, elle doit être privée. Genre, ça va de soi que c'est mon peau.
Pourquoi elle serait pas privée, en fait?
Et du coup, qu'elle
est qualifiée de privée, ça, elle induit une peau qui serait pas privée et qui serait quelque chose d'un peu sombre, en fait, immédiatement.
s'il faut le préciser. Ouais, c'est un peu, ouais, ouais. Voilà, c'est un peu ça. Et en effet, je trouve qu'il y a des choses ambiguës et je trouve qu'il ne faut pas isoler forcément des gens. Et que genre, pour moi, ce n'est pas noir et blanc, cancel ou pas cancel. À part quand il s'agit de choses sexuelles ou peut-être d'autres choses aussi. Mais pour moi, genre, ça, c'est vraiment... Genre, c'est fini, quoi, tu vois. Et souvent, genre, pour moi, genre, il y a trois chances que je laisse aux gens en termes de transgression. Et après, genre, c'est fini, quoi. Et on peut dire, genre, oh, mais si on les isole, ils vont devenir pires. Mais en fait, genre, si tu les éduques, ils vont dire oui, oui, continuer. Et à partir d'un moment, juste changer de ville parce qu'ils sont plus... Et ils vont continuer leur vie. Et ça se fait vraiment beaucoup comme ça. C'est vraiment des, avec, genre, moi, je suis... J'ai commencé à sortir et à fréquenter beaucoup de gens récemment. Et c'est quelque chose qui m'a assez impressionné de la vie adulte. C'est de voir des adultes qui se comportent comme ça. Ça me choque, ouais. Honnêtement.
Et là, c'est vrai que la cancel culture, elle se pose pas la question de la réhabilitation, en fait. De qu'est-ce qui se passe. Et souvent, il y a... des jugements qui sont rendus, mais il n'y a pas forcément de suite. En quelque sorte, c'est peut-être plus comme des sortes de manières de bannir les gens culturellement, mais ouais.
Mais moi, je ne sais pas quoi faire avec les gens comme ça. Quand tu essaies de les expliquer, tu essaies de les aider, mais en fait, ils sont giga froids et manipulateurs, et en fait, genre, ils savent très bien ce qu'ils font, et ils n'ont aucune intention d'arrêter jusqu'au moment où ils vont devoir changer de ville. Genre ça
genre... C'est pas très optimiste.
Non, tu mais veux dire aller dans une ville de Vendée, par exemple.
Ouais, peut-être.
On peut les mettre dans des trains, mais bon, ouais, non, mauvaise idée.
Non, mais après, genre là, genre c'est à cause de l'expérience récente avec des amis, et genre l'effet que ça peut avoir sur toi, c'est quand genre ça te fait vraiment questionner des choses à qui tu peux faire confiance.
Non, pardon. Non, mais je comprends tout à fait. Enfin, c'est des sentiments que j'ai déjà ressentis, évidemment, quelque chose de l'ordre du choc ou de la déception, etc. Après, j'aurais envie de peut-être questionner deux choses dans ce que tu disais. Quoi. La première, que quand tu disais, on peut laisser une autre chance, sauf quand c'est sexuel, où je me disais, bon bah ça, la place qui est donnée à la sexualité dans notre société ou dans la loi aussi. Ça, c'est un truc qui m'interroge, de voir que, par exemple, à gauche, en général, on est quand même plutôt pour la réhabilitation, la réinsertion. Mmh. C'est plutôt bien vu dans les milieux culturels d'aller faire des ateliers en prison, etc. Et par contre, quand c'est sexuel, là, ces principes-là sont abolis. Moi, c'est quand même quelque chose que je voudrais questionner, quoi. Je me dirais pourquoi. Je vois très bien que ça peut être un balancier par rapport à toute une période où justement il y avait l'effet, enfin le fait inverse, où on disait mais il y a pas de preuves, donc on prend pas en compte ces sujets-là. Donc peut-être que c'est un retour de bâton, mais voilà. Et de l'autre côté, un autre truc, c'est moi j'ai pas envie de me dire que les gens sont forcément calculateurs, quoi. Quand tu disais, ils vont dire oui, quand on va chercher à les éduquer, mais ils vont continuer à le faire, sous-entendu, ils seraient manipulateurs. Enfin, on a un inconscient, quoi. On se rend pas forcément compte de ce qu'on fait, ou voilà. Et...
Non, mais les gens sont responsables, quand même.
Oui, bien sûr. Oui.
Moi, je parle juste là, dans ma tête, quand je dis ça, je pense à un cas très particulier, mais bien sûr que non. Genre, moi aussi, j'ai été éduqué sur le consentement. Moi, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pas eu une grande éducation au niveau consentement, mais j'ai eu assez de chance que dans ma première relation, l'autre personne m'a énormément éduqué et ça m'a fait, pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais tellement de choses que je savais pas. Parce que quand tu connais pas le consentement, bah, tu sais pas non plus comment ne pas être violé. Donc, du coup, genre, si tu sais pas comment dire non, ou si tu connais pas bien les règles, c'est aussi un truc qui te protège de ça. Donc, du coup, en fait, et moi aussi, je trouve que c'est juste quand je dis genre de sexuel, moi je trouve que les crimes sexuels sont extrêmement graves. Et c'est peut-être pour ça que j'aime bien ce nom de private skin aussi, c'est parce que genre, c'est ma peau en fait. Et le truc qui est drôle, c'est que si vous venez au concert, vous allez peut-être voir beaucoup de ma peau. Parce que j'aime aussi ce concept-là de genre.
C'est vrai, ça.
Genre de aussi m'habiller exactement comme je veux et de peut-être montrer beaucoup de ma peau, mais juste sur scène, parce que c'est là où vous êtes, vous avez le droit, parce que c'est genre mon private skin qui est montré for one night only. Et j'aime bien ce double concept là aussi.
Et alors, quel morceau de Serge Gainsbourg vous voudriez passer?
Non, s'il vous plaît.
Oh là là. Non, vous êtes absolument libre dans votre carte blanche.
Ça peut être aussi un morceau de vous, hein, repasser un morceau des Tricelle and the Soporific, enfin comme vous voulez, mais... Elle se concerte.
Ouais.
En attendant, on va écouter Serge Gainsbourg.
On va vous mettre un morceau des Horrors qui s'appelle Three Decades. C'était sur l'album en 2012, il me semble. Les Horreurs en français. Et sur cet album-là, ils font une vraie transition stylistique entre leur première période garage et leur seconde période plus new wave. Et ce morceau-là est particulièrement intriguant sur l'utilisation de la guitare, que j'aime beaucoup.
Everything pretty, the system being fine, and my life.
Sur Canal B en compagnie à la fois de The Private Skin et Tris and the Soporific. Moi je trouve pas que ce soit si soporifique que ça.
Non mais c'est un jeu de mots, t'as toujours pas compris.
Ah.
C'est le savon horrifique. C'est ça.
Mais on espère vraiment mériter plus ce prénom à la rentrée. Je prépare deux singles et ça va être plus Cauchemar Rock et Dark Folk. Donc on va vraiment aller dans la zone des ténèbres pour la rentrée, j'espère.
Et t'as des concerts à la rentrée?
Oui. En vrai, je sais pas si j'ai le droit d'annoncer encore ce qui s'est passé à l'antenne. Mais on a une grande rentrée.
Il y en a qui
ont
déjà annoncé sur l'internet.
Il y en a qui ont déjà annoncé.
Celui à l'Antipode, il est annoncé.
Celui de l'Antipode.
En novembre, c'est ça?
Oui, le Grabuge. On va jouer au Grabuge pour Cool Thing, le festival. Et on a trop hâte de ça. Et on a une grande rentrée... Ouais, j'ai pas demandé si j'ai le droit de dire ou pas, je viens de me rendre compte.
Sinon qu'il y a des choses qui arrivent, il faut rester connecté.
Voilà. Genre parce que... en fin d'année, quoi.
Ouais.
On peut dire que c'est un grand festival rennais de la fin d'année, quoi.
Ouais.
On dit pas lequel.
un duo peut-être avec Morrissey. C'est ça.
Oh
que
non
pas dire.
Il est avec nous ce soir, d'ailleurs, il est là.
Et Charlotte? Et Charlotte Gainsbourg?
Et Charlotte Gainsbourg? Ah bah oui, avec plaisir.
Oh Charlotte.
Même si elle soutient Israël.
Elle soutient Israël. Oui. Oh, for goodness sake. Bah, il ne faut plus avoir des idoles maintenant, de toute façon.
Non.
Il faut seulement idéoliser les gens qui sont à Rennes.
Non, bon, peut-être qu'il faut idéaliser personne.
Ouais, idée du siècle.
De l'idéalisation des choses.
Et vous, on peut vous idéaliser ou pas?
Oui.
Ah oh, okay. Oui.
D'accord. Je vais continuer alors.
Oh, c'est beau.
Oh, we have a sim.
Merci beaucoup.
Et moi, je voulais juste poser une question. Je vais peut-être être complètement à côté de la plaque. Vous me le direz tout de suite.
Allons-y.
Parce qu'il y a beaucoup de horrifiques, horreurs, glauques, etc. Et moi, évidemment, en tant que mâle blanc, cisgenre, partiellement déconstruit. J'ai tout de suite pensé à The Rocky Horror Picture Show, et pour moi, c'est vraiment... Ce film est un monument. Donc, il y a l'horreur, il y a la question de la transsexualité. C'est quoi votre rapport à ce film qui a posé des bases, je pense?
Bah, c'est un de mes films préférés.
Et j'ai
même mis en scène ma propre comédie musicale glam rock en 2022. Ouais. J'adore ce film. Je trouve que c'est le meilleur représentation trans de tous les temps.
C'est vrai qu'on parle pas souvent de Maîtrise. Quand elle avait 22 ans, elle a fait genre toute une comédie musicale. Il y a une représentation. C'était où?
C'était avec la Reine Théâtre à Rennes 2. Donc c'était à Rennes 2 et puis c'était dans une salle de spectacle, je sais pas comment déjà.
La deck,
mmh. Oui. Mmh.
La maison du théâtre amateur.
Ouais, c'est ça. C'était toujours chouette.
Elle a plusieurs cordes à son arc. Hein. Et souvent, je rencontre des gens qui ne la connaissent même pas pour sa musique ou pour ses vidéos, mais qui sont en mode genre, ah oui, mais je la connais pour cette comédie musicale queer qu'elle a faite genre à la fin de mes études. C'était extraordinaire. Encore une dimension de sa carrière.
C'était une influence, c'est sûr. J'adore le glam rock.
Ouais, et puis il y avait un... C'était dans la liste des influences qu'on avait en termes de production pour le morceau Crush.
Ouais. New York Dolls.
Ouais. Mm-hmm. Avec une voix assez androgyne, comme celle du réalisateur qui chante la première chanson au début, dont le nom m'échappe.
Mm-hmm.
Des artistes glam, de manière générale, qui jouent avec cette question du genre.
Donc pour celles et ceux qui ont envie de vous voir en concert, le rendez-vous c'est l'Antipode à la rentrée ou il y a des choses avant?
Ça c'est Tristan Soporifique. Mm-hmm. Et pour nous, tu vas annoncer Oden?
Ouais, pour Private Skin, on a eu un concert, on a notre prochain concert qui sera en octobre. On va ouvrir pour un groupe d'anglaises qui s'appelle Jen avec deux N, G-E-2-N. Et ça va être une soirée organisée par l'association Vague Confusion, qui avait aussi résultat programmé Yosari Baby qu'on écoutait tout à l'heure.
Ce sera où?
Et ce sera
au Penny Lane, le 28 octobre.
Voilà.
C'est le moment d'ailleurs de préciser que le morceau de Not Jane qu'on a entendu il y a quelques minutes avant qu'on reprenne la parole, c'était un morceau de Tris and the Soporific.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça.
Tout est un peu dans le désordre et un peu décousu dans cette émission. Mais,
en fait, cet EP-là, c'est le premier EP qu'on a sorti ensemble des suites des sessions qu'on a fait à la Witch House avec Tris, quand on a commencé à travailler ensemble tout un été. Et on est sorti donc il y a un an, ces deux morceaux qui étaient déjà au répertoire du groupe en live depuis quelques temps, mais qui avait une sorte de sortie officielle avec les techniques de production donc, et les différents instruments qu'on avait à disposition.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce qu'on écoute pour terminer cette émission? Pour se terminer?
Ah oui, parce que d'habitude...
On se termine toujours avec un morceau.
Eh bien, on peut mettre Cool Thing de Sonic Youth.
Ouais, Cool Thing, pour annoncer
le prochain festival.
Bah, merci beaucoup.
Merci à vous.
Cœur, bisous les amis. Et puis peut-être bien à la semaine prochaine. Ça reste à définir.
À définir, mais peut-être bien.
Inch'Allah.
Cœur, bisous.
À bientôt.
Sing. about. Get away with her.
Hey, cool thing. Come here. Sit down beside me. There's something I gotta ask you.